Je discute avec Joanne Méthotte maintenant, directrice adjointe à la direction générale et directrice des soins infirmiers. Elle est avec nous. On va parler évidemment de ces changements qui viennent de s'opérer avec Rimouski. C'est que là-bas, maintenant, on confirme qu'il y a un laboratoire qui va réaliser les analyses de prélèvement de la COVID-19 qu'on a chez nous ou qu'on enverra là-bas. Ce n'était pas le cas avant, donc on en discute avec elle de ces changements. Bonjour.
Bonjour, M. Olaré, ça va?
Oui, ça va bien. De votre côté, quand même?
Oui, ça va, comme on dirait, dans un contexte de pandémie, dans le fond, dans un site qui est très actif pour vraiment s'assurer de mettre les mesures sécuritaires de la population. Effectivement, dans ce contexte-là, on travaille tout fort, mais ça va dans le contexte.
Bon, j'aimerais qu'on parle évidemment de cette nouvelle importante pour la région parce que ça va permettre de sauver du temps. Qu'est-ce qui se passait avant lorsque nos tests étaient effectués ici, dans chacun des hôpitaux? Comment ça fonctionnait? Je sais qu'on les envoyait à Montréal, mais expliquez-nous un peu le parcours. Qu'est-ce qu'il en était? Et les délais, là.
Absolument. Déjà de dire, dans le fond, c'est d'entre-deux. À partir du moment que le test était fait, c'est que nous, on a un transport par jour. Donc, bien évidemment, dans le fond, c'est que le départ du spécimen partait à un moment précis de la journée, à une heure précise. Fait que c'est bien sûr que si j'avais passé mon test suite au départ du transporteur, donc mon test était acheminé à ce moment-là, le lendemain. Il est important, dans le fond, avant de continuer d'expliquer la trajectoire, c'est de dire que tous les spécimens sont transportés de façon très sécuritaire. Dans le sens où il y a des processus, des façons de faire, puis des mécaniques et des techniques qui font que tout est là pour préserver le spécimen, peu importe la durée durant son transport, je trouve ça important de spécifier. Donc, par exemple, si je me suis rendue à Gaspé au centre de détection et on fait un dépistage pour le COVID, c'est que si le transporteur a quitté une heure avant, ça veut dire que mon spécimen est en attente jusqu'au lendemain matin avant de quitter.
À quelle heure ça quittait? Est-ce qu'on a l'idée ou on ne peut pas le mentionner?
J'ai pas. Ben dans le fond, par territoire, il y a des heures bien définies. Là, ça varie d'un territoire à l'autre, mais je n'ai pas l'heure exacte.
Dans l'avant-midi ou l'avant-midi, après-midi? Il n'y a pas de.
Ouais, habituellement, c'est autour, là, comme vraiment pas loin de l'heure là, de 13 heures. C'est autour de 13 heures environ. Là.
OK.
Le 13 heures. Fait que ça permettait de prendre les tests du matin pour justement, dans le sens de limiter justement le nombre de temps pour éviter justement les retards dans les spécimens. On concentre donc plus davantage en avant-midi nos détections. Suite à ça, dans le fond, il y a un arrêt, un premier arrêt, c'est ce qui existait, au centre de tri à Mont-Joli. Fait que là, je vais vous dire un drôle de mot, c'est que le spécimen couche là pour la nuit, on va dire ça comme ça, pour ensuite, le lendemain, il était dirigé à Rimouski pour une validation vraiment de conformité puis d'analyse de transport du spécimen, voir si tout est OK. Ensuite, le spécimen était dirigé vers l'endroit où l'analyse devait être faite. Donc, on comprend qu'à partir du moment où le spécimen a été prélevé, quand on fait toute cette trajectoire-là, déjà dans le transport, il y a des délais. Ensuite, le spécimen était dirigé vers le laboratoire de santé publique à Montréal ou à un autre endroit désigné selon le cas. Et là, à ce moment-là, l'analyse se faisait. Le défi était, c'est qu'en plus du transport pour la Gaspésie, c'est qu'il y avait un temps aussi d'attente d'analyse du spécimen à cause du trop grand volume.
Oui.
Fait que ça, c'est ce qui se passait avant là, pour nous, ce qui faisait que, dans le fond, ça occasionnait des fois de 3 à 5 jours en moyenne pour avoir nos résultats à cause de la trop grande forte de demande. Puis aussi, on comprend avec la trajectoire du spécimen en véhicule, de la façon qu'il se véhiculait en Gaspésie, à partir de la Gaspésie pour se rendre à l'endroit où ce que l'analyse se fait.
OK, donc on comprend que c'est une très bonne nouvelle d'avoir un laboratoire à Rimouski maintenant. Donc, comment ça fonctionne à partir de maintenant?
Bien, vous le mentionnez vraiment bien. On est vraiment très, très heureux. On savait que ça se préparait au niveau du Bas-Saint-Laurent, puis c'était en réflexion, puis on est vraiment content de l'ouverture du centre d'analyse à Rimouski. C'est vraiment une bonne chose pour les Gaspésiens parce qu'effectivement, ça va diminuer les délais. Si on revient, par exemple, au niveau du transport. C'est pour vous dire, c'est que présentement, l'équipe du Bas-Saint-Laurent travaille vraiment actuellement à ce qu'une trajectoire soit plus directe. C'est l'objectif. Puis normalement, on devrait sous peu recevoir l'information par rapport à la trajectoire directe. Ce qui veut dire, si on revient à notre exemple de tantôt...
Oui, à quoi on peut s'attendre? Ouais.
À quoi on peut s'attendre, c'est que je vais au centre de détection, je suis à Gaspé. On me passe mon test. À une heure, dans le fond, mon spécimen part pour Rimouski et ça va directement. C'est ça l'objectif, c'est ce qui est en train de se finaliser. Puis je peux vous dire que déjà, les travaux là sont quand même bien avancés. Fait qu'on est en attente là d'un détail par rapport à la trajectoire.
Donc, il n'y aurait pas d'arrêt encore à Mont-Joli où on centrait tout ça. Donc, ça s'en va directement à Rimouski. Donc, de tous les hôpitaux, on peut comprendre, ça irait directement à Rimouski. Donc, en fin de journée, ce serait là. On peut comprendre ça.
Effectivement. Effectivement, c'est l'idée. Puis, c'est ce qui est en train de se travailler. Puis, c'est ce qui est en train de se concrétiser. Puis, qu'on est en attente, dans le fond, de la définition de la trajectoire par le Bas-Saint-Laurent. Mais les gens, ils travaillent déjà depuis plus d'une semaine. C'est qu'on, sous peu, on devrait avoir la trajectoire officielle.
Mais
ce qui veut dire pour la population gaspésienne, c'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Parce que maintenant, c'est que, à l'intérieur de 24 ou 48 heures maximum, c'est que les échantillons vont pouvoir être analysés. Ce qu'on me dit au niveau du site du Bas-Saint-Laurent, c'est que, dépendamment de la demande, l'analyse, ça peut être 24 heures par jour, dans le fond, où ils vont mettre à disponibilité le personnel pour que rapidement on ait nos résultats. Ça va toujours aller en fonction de la demande. C'est bien important de le nommer. Donc, le site du Bas-Saint-Laurent, pour eux, ont vraiment la capacité de répondre à aux deux territoires et de pouvoir permettre l'arrivée des résultats en deçà de 24 à 48 heures. Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle.
Donc, on vient de diminuer de plus de la moitié, pratiquement le temps. Là. C'est au moins la moitié et plus.
Au moins de 3 jours et plus. On comprend que, dans le fond, c'est une nouvelle approche. Il va y avoir une certaine logistique, dans le fond, une adaptation, mais l'objectif, c'est vraiment même de le ramener. L'objectif du Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment des résultats en dedans de 24 heures.
Donc, on comprend que ça en va finalité. Commencer... Oui, c'est ça. On commence tranquillement, puis après ça, le but, c'est d'arriver à 24 heures. Donc, on viendrait pratiquement sauver 4 jours de délai, là, si on comprend
Absolument.
Bien.
Absolument. C'est l'objectif visé.
Bon, alors voilà pour ces tests. Est-ce que au niveau des tests, on en a suffisamment aussi encore dans la région pour tester les gens? Et quelles sont les priorités? Parce que bon, ça a changé beaucoup dans les derniers jours, là.
Oui, présentement, dans le fond, pour vous dire, pour le matériel de détection, pour l'instant, nous en avons en quantité présentement, on dit bien présentement, en quantité suffisante pour les tests que nous avons à faire. Effectivement, il y a des nouvelles priorisations qui ont été faites. On comprend que pour les laboratoires, la responsabilité est aussi du Bas-Saint-Laurent, parce que c'est eux qui sont la grappe optilaire. Donc, on a reçu vraiment récemment, la semaine dernière, la nouvelle priorisation. Donc, en priorité 1, c'est vraiment les patients hospitalisés avec des symptômes. La priorité 2, ce sont les personnels de la santé en contact direct avec la clientèle, qu'ils soient en CHSLD, en CH ou en service ambulatoire, puis qui présentent des symptômes. En priorité 3, c'est les résidents des CHSLD puis des résidences pour personnes âgées, puis qui présentent bien sûr des symptômes. Voilà les 3 priorités à ce moment-ci pour... C'est-à-dire au niveau des tests de détection. Là. Mais bien évidemment, on a d'autres personnes qui sont détectées aussi. Mais pour vous dire que les priorités 1, 2, 3 sont celles-là.
Matériel médical, ça aussi, depuis 2 jours, on en parle beaucoup, de la question des masques, des blouses, des gants. Oui. Quel est le portrait chez nous?
Bien, présentement, dans le fond, je n'ai pas les chiffres à ma portée, mais ce que je peux vous dire, c'est que quotidiennement, il y a une analyse de tout le matériel dans l'ensemble du site. Je peux vous dire aussi que le matériel là, le plus rare, dans le fond, est très contrôlé dans le sens pour qu'il soit utilisé pour les bonnes situations cliniques afin d'éviter les gaspillages.
Quel est celui qui est le plus...
Par exemple, pour vous dire que les masques N95 qu'on entend beaucoup parler dans les médias n'est pas requis pour toutes les situations. On va prendre l'exemple du premier ministre qui nous a ramené, par exemple, qu'un agent de sécurité n'a pas besoin de N95. C'est vraiment dans des situations très spécifiques où ce qu'on utilise ces masques-là. Puis nous, à l'interne, on veille à appliquer pour que ce soit respecté selon les situations cliniques qu'il exige. Donc, c'est du matériel que nous avons apporté d'une personne qui est responsable pour que seules les personnes qui nécessitent ou c'est requis aient l'équipement, le matériel requis là, plus précieux.
Quand le premier ministre disait qu'on en avait pour 3 à 7 jours, chez nous, est-ce qu'on peut dire pour combien de jours on en a?
Je ne pourrais pas m'avancer parce que c'est au quotidien. Au quotidien, présentement, on fait notre analyse à tous les jours, puis on un peu comme dans le fond au niveau du ministère le font pour tout le Québec, nous on le fait aussi pour nos réseaux locaux. C'est qu'à tous les jours, je peux vous dire que les directeurs, les gestionnaires, on fait une comptabilisation du matériel, on en regarde ensemble, puis on prend des décisions vraiment de façon très quotidienne, c'est régulier, pour que le matériel soit utilisé pour les bonnes situations. Donc, pour répondre à votre question, dans le fond, pour combien de jours, je ne pourrais pas vous dire à ce moment-ci, mais présentement, les situations cliniques qu'il exige, où il y a un COVID ou un cas suspicieux, dans le fond, vraiment, ils ont le matériel présentement suffisant.
OK. On parlait tantôt, c'est juste pour bien préciser, c'est la question du masque N95 qui est le plus utilisé, qu'on surveille le plus, c'est ça? Hein?
Bien, pas nécessairement le plus utilisé, mais c'est que parce qu'il faut vraiment que c'est... Je pense que ça a été pendant... maintenant, c'est plus clair pour les gens, parce que je pense que c'était par un manque d'information. C'est qu'on pense que c'est le N95 qui va nous sauver la vie, mais non, c'est que dans le fond, c'est juste dans certaines situations cliniques, par exemple auprès de personnes intubées, que dans le fond, que c'est requis, puis dans certaines conditions cliniques, comme je l'ai mentionné. Mais sinon, pour les professionnels de la santé qui travaillent de près ou de loin avec des personnes suspectes, les masques qu'on appelle, nous, de procédure sont suffisants. Donc, c'est toute une logistique que nous faisons vraiment par rapport à la réflexion sur l'utilisation du matériel.
Est-ce qu'on pourrait, ou avez-vous eu des demandes, ou est-ce qu'on a passé des équipements justement comme ça, des masques, je donne l'exemple, là, à d'autres régions où, qui en manquent? Parce qu'on voyait là, hier une situation où on disait bien, dans quelques jours, on risque d'en manquer. Est-ce qu'il y a eu des transferts un peu pour aider d'autres secteurs?
Bien, présentement, pour vous dire effectivement, c'est qu'au niveau du Québec, il y a comme des appels justement là, à l'aide dans le sens pour des gens qui ont besoin de matériel. Mais pour nous, présentement, dans le fond, la photo que j'ai de ce matin, c'est que nous, on n'a pas transféré de matériel ailleurs parce qu'on est dans des petits volumes, dans des petites quantités. Mais c'est la photo d'aujourd'hui. S'il y a une exigence autre qui vient éventuellement, ça, je pourrais pas vous dire. Mais présentement, dans le fond, nous, on a des petits volumes de matériel qui, présentement, répond aux besoins de la Gaspésie. Puis à ce moment-ci, on n'a pas eu d'exigence là, d'acheminer du matériel ailleurs, considérant les volumes que nous avons qui est requis pour ce que nous avons à ce moment-ci. Là.
Okay.
Dans l'éventualité où ce que nous avons de gros des arrivages plus importants, là on spécule, on est des arrivages plus importants, puis que la situation en Gaspésie reste très stable. Bien, il est possible qu'éventuellement, à un moment donné, on dit qu'il faut partager si on a des secteurs qui sont plus en besoin puis que nous, on n'a pas beaucoup de cas. Mais pour l'instant, ce n'est pas la situation. Puis le futur, on verra comment on peut le gérer.
Qui peut vous obliger à faire ces transferts? C'est le ministère de la Santé, dans le fond? C'est pas une région à une autre, là. Ça va être le ministère?
Bien, c'est que, regardez, on va prendre l'exemple des écureuils. Si nous, dans le fond, on stocke, puis c'est pas tout le temps, la quantité, bien, il est possible que le ministère dit peut-être, je ne dis pas qu'ils vont faire ça, peut-être de dire, bon, est-ce que ça serait possible de regarder ce qui est possible pour partager avec les secteurs qui sont en besoin. Il faut comprendre aussi que lorsqu'on a des cas COVID hospitalisés à ce moment-ci, c'est présentement notre trajectoire est vers les centres désignés, particulièrement pour les soins intensifs. Ça fait que donc, ça peut être de la population de la Gaspésie, de la côte nord, de l'Abitibi, des îles de la Madeleine puis du Saguenay, qui, eux, leurs populations sont dirigées vers les 8 centres désignés. Puis eux, bien évidemment, pour bien nous desservir, il est possible qu'ils tombent en manque des matériels. Mm-hmm. Il est possible. Ça fait que probablement ça ne se ferait pas, mais si ça se fait, c'est possiblement dans une logique, comme je viens de le mentionner, parce que il faut pas, dans le fond, occulter le fait qu'ils desservent notre population aussi, la population des régions éloignées. Aussi, dans le fond, ça va dans le sens contraire. C'est que aussi, c'est nous, si on a besoin, il y a des établissements qui peuvent nous aider. C'est vraiment, présentement, il y a vraiment au niveau des PDG, des rencontres régulièrement, à tous les jours, avec le sous-ministre de la ministre de la Santé, pour vraiment que les gens travaillent ensemble à réfléchir comment tout doit être là, fait, puis comment les gens doivent travailler en partenariat. Ce qui est important aussi de dire, quand que nous, quotidiennement, nous analysons un peu le matériel que nous avons, c'est que nous acheminons ces données-là au ministère. Puis c'est au niveau central que tout est géré.
Alors, Joanne Méthotte, merci beaucoup, directrice adjointe au CIS de la Gaspésie. Merci bien pour nous avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup. À bientôt, Richard.